Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire qui va vous donner envie de sortir du grenier votre vieux poste de radio pour écouter, non pas un canal en particulier, mais ce qu'il se passe entre les fréquences, dans ce crépitement caractéristique. Car il arrive qu'au milieu de ce grésillement, la bande hertzienne s'anime étrangement. On y entend alors des séries de bips, des musiques un peu inquiétantes et des suites de chiffres sans logique, égrenées dans toutes les langues. 3, 9, 7, 1, 5. Il ne s'agit pas d'un bug ou d'une radio que l'on capte mal, mais de ce qu'on appelle une station de nombre. Un mystère que des radios amateurs du monde entier cherchent à percer depuis des décennies. Ces codes ont-ils un sens? Servent-ils à dissimuler des activités illicites ou même des échanges entre espions? Le journaliste Guillaume Origoni a enquêté sur cette énigme pour Le Monde. Il nous raconte. Le mystère des stations de nombre, un épisode de Margot Lanuzel, réalisation Amandine Robillard. C'est un son monotone, un bourdonnement ponctué 25 fois par minute d'un bruit ressemblant à celui d'une corne de brume. Et de temps à autre, une suite de chiffres en russe.
12, 68, 06, 04, prium.
Depuis 1982, la station de radio en ondes courtes, UVB 76, émet 24 heures sur 24 depuis le nord-ouest de Moscou, dans une zone militaire secrète pendant la guerre froide. Les passionnés l'ont surnommée « The Buzzer ». En 4 décennies, personne n'a jamais percé son mystère. Plusieurs hypothèses farfelues ont été évoquées. Ce son continu servirait à contrôler mentalement les populations ou même à communiquer avec les extraterrestres. Mais une explication est plus consensuelle que les autres, celle dite de la pédale de l'homme mort. Dans les locomotives des trains, ce dispositif vise à s'assurer que le conducteur va bien pour indiquer qu'il n'a pas succombé à un malaise, il doit appuyer à intervalles réguliers sur une pédale. UVB 76 pourrait donc être la pédale de l'homme mort de l'URSS devenue la Russie. Par ce bourdonnement continu, le régime indiquerait à ses troupes à l'étranger, ses officiers de renseignement et ses diplomates que Moscou et sa région n'ont pas été détruites par une attaque nucléaire. Un certain flou demeure toutefois. En 2011, un reporter américain s'est introduit dans le complexe militaire depuis lequel émet le buzzer et a constaté que les lieux étaient désaffectés depuis 2 ans. Alors comment est-il possible que l'on entende encore cette station russe sur les ondes et depuis où émet-elle? En attendant que le mystère soit définitivement percé, UVB 76 se fait sa place dans la pop culture et des DJ de la scène techno moscovite en incluent des extraits dans leur mix. Bonjour Guillaume.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors, pour mettre nos auditeurs et auditrices dans l'ambiance de ces sons un peu mystérieux qu'on va essayer de décoder aujourd'hui, je viens de raconter l'histoire de la station russe UVB 76. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle une station de nombre?
Alors oui, non, pas tout à fait. Dans le sens où une station de nombre n'émet pas des bruits. On appelle ça plutôt une noise station, le nom qui serait adéquat pour le buzzer ou l'UVB 76. Elle fait partie par extension de ce qu'on appelle les number stations, qui elles émettent des séries, la plupart du temps, des séries de nombres. Il arrive que ce soit parfois des lettres, soit par le biais de voix synthétiques ou de speakers, ce qui est de plus en plus rare, soit ces chiffres ou ces lettres sont émis en morse. Mais disons que le buzzer fait partie par extension de la grande famille des number station.
Et est-ce que tu as d'autres exemples de stations de nombre à nous donner pour qu'on puisse se faire une idée?
Alors, il y a des stations de nombre qui sont assez célèbres, notamment pour l'étrangeté de leur transmission ou l'étrangeté de la façon dont elles transmettent. Il y en a une qui me vient à l'esprit, qui est la Soli Sharp Soli, qui est introduite par une espèce de boîte à musique assez dissonante, assez déglinguée. Et ensuite, c'est la voix d'une petite fille qui égrène des séries de nombres. Donc, celle-ci, bien que aujourd'hui inactive, elle est extrêmement connue. Il y a eu là aussi la Bulgarian Betty qui a transmis de façon aléatoire des séries de chiffres en plusieurs langues, et y compris des langues qui sont des langues plutôt rares, comme le macédonien par exemple. On peut multiplier les exemples, il y en a pas mal d'autres.
Et alors, Guillaume, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à les capter, ces stations de nombre, et à chercher à les interpréter?
Vraisemblablement depuis plus longtemps que ce que nous le pensons. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que à partir de la fin des années 50, début des années 60, les gens qui émettent et écoutent, s'écoutent entre eux, écoutent ce qui se passe sur les bandes, captaient ces séries de chiffres et se demandaient ce que ça pouvait bien être. Et petit à petit, il y a eu, on va dire, une communauté de ces shortwave listeners, les number station listeners, qui ont enquêté, chacun à leur manière et chacun dans leur coin.
Et c'est cette communauté de passionnés, tu l'as décrit dans l'article que tu signes dans Le Monde, et il y a des personnages, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns?
Alors oui, il y en a, et il y en a surtout un qui se distingue des autres pour des tas de raisons. Il s'agit de William Thomas Godbey, mais qui est beaucoup plus connu dans le milieu des écouteurs sous le pseudo de Davana Moon. C'est un personnage assez drôle et haut en couleur, mais aussi extrêmement rigoureux dans les enquêtes qu'il a menées pour savoir ce qu'étaient ces number stations. Ça commence à la fin des années 60. Et cet homme est un ancien officier radio de la marine des États-Unis. Et c'est en tant qu'amateur, une fois qu'il n'est plus dans la marine US, qui l'écoute, donc ses stations de nombre, et qui décide d'enquêter là-dessus. Alors il va publier des livres à compte d'auteur où il décrit ses enquêtes, ce qui est assez drôle parce que il mêle à la fois une enquête rigoureuse sur ce qu'il a entendu, les séries de chiffres, à quel moment, sur quelle fréquence, etc. Mais en même temps, il fait référence à des films, il fait référence à des tableaux, il fait référence à de la littérature, et il décrit cette enquête sur les stations de nombre aussi avec une certaine poésie.
Les nombres peuvent être à la fois messagers d'aventure, de rébellion, d'intrigue et de romance. Les nombres sont Bogart et Bergman. Ils sont Cagné et Lombard. Ils sont le théâtre de l'esprit lorsque celui-ci résonne dans les plus hautes fréquences. Ils sont le mystère absolu.
Et on vient d'entendre un des extraits de son livre, en effet, c'est joliment dit. Et alors, quels sont les autres personnages marquants de cette communauté de passionnés dans les années 70 où l'intérêt pour ces stations explose?
C'est surtout des Américains, en premier lieu. Alors, je pense à Simon Mason et, par exemple, Chris Molinsky. C'est des gens qui reçoivent comme cadeau, alors de Noël ou d'anniversaire, alors qu'ils sont adolescents, des stations d'écoute, hein, des radios à ondes courtes, pour écouter les ondes courtes, et captent donc ces stations de nombre. Et eux-mêmes se demandent ce que c'est, ils demandent dans leur club de radio amateur, et puis bon, en fait, il n'y a pas de réponse. Donc, aussi bien Simon Mason que Chris Molinsky, au cours des années, ils vont eux-mêmes enquêter là-dessus, avec les moyens qui sont les leurs à l'époque, évidemment, il n'y a pas encore l'Internet, et ils s'échangent par bulletin dans les magazines spécialisés, des questions, des réponses, afin d'enquêter sur le mystère et station de nombre. Et puis, en France, il y a Alain Charret. Alain Charret, c'est un radio amateur, quand il est jeune, et ça va devenir un spécialiste puisque plus tard, il en fera son métier, notamment dans l'armée et dans le renseignement.
Et alors, à cette époque-là, tu nous dis qu'ils échangent beaucoup entre eux. Quelles sont leurs hypothèses à ces radioamateurs sur le sens de ces transmissions?
Alors, jusqu'au mi-temps des années 80, il y a des tas d'hypothèses, notamment que ce soit des résultats de la loterie, des bulletins météo, des transactions bancaires. On a même pensé à des transmissions entre trafiquants de drogue, ce qui tient pas vraiment, en fait, comme explication. Et puis, à l'aube des années 90, on a une hypothèse, c'est que ces émissions, elles sont un moyen de communication entre les services de renseignement et les agents clandestins ou les officiers de renseignement qui sont installés à l'étranger, notamment évidemment au début de la guerre froide, puisque la guerre froide constitue l'acmé de ces stations de nombre.
Ok Guillaume, donc à partir du début des années 90, la piste du renseignement tient la corde. On pense que ces stations de nombre donc servent à transmettre des messages depuis le début de la guerre froide, mais encore faut-il le prouver. Alors comment est-ce que les radioamateurs mènent l'enquête?
Alors le plus emblématique là-dessus, ça reste Havanamoun, puisqu'il multiplie les requêtes à son propre gouvernement et à ses institutions. Il utilise pour ça le Freedom of Information Act, c'est-à-dire le droit légitime pour un citoyen américain de réclamer des informations sur les agissements de l'État. Donc il interroge la NSA, la CIA, les instances de régulation de télécommunications, toujours avec la même question.
J'ai capté en onde courte une transmission en espagnol. 52, 145, 63, 526, 89, 526. Celle-ci est précédée d'une voix qui répète plusieurs fois en espagnol « Attention ». Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Car cette radio n'est pas répertoriée aux États-Unis.
Et alors, qu'est-ce qu'on lui répond?
Bien, on lui répond pas grand-chose de satisfaisant et on lui répond des fois des choses qui sont assez fantaisistes.
Nous n'avons pas connaissance de telles transmissions, et après enquête de nos services, il apparaît qu'elles proviennent de territoires en dehors de notre compétence et ne concernent donc pas les États-Unis. Mais grâce à vous, nous avons maintenant connaissance de ces transmissions et nous vous remercions de pouvoir clore cette affaire.
Bon, donc du coup, il n'est pas très content à Havanamoun, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa Chevrolet et il suit une piste qui le conduit au travers de la Route 1 aux États-Unis jusqu'à une station de l'Air Force, ok, à Tequesta, en Floride, et il comprend que il y a des transmissions qui partent de là. Elles ont beau être en langue espagnole, elles partent des États-Unis pour aller on ne sait trop où, et il y a bien donc des émissions de stations de nombre qui partent des États-Unis pour aller vers l'étranger.
Et est-ce qu'il y en a d'autres, des démarches individuelles comme celle de Havanamoun pour essayer de trouver des réponses en enquêtant ou en interrogeant les États?
Oui, il y a des démarches qui sont faites, notamment en France, par exemple, par Alain Charret. Il est officier de l'armée française. Il est un temps détaché à DGSE. Et puis, quand il y a de la DGSE, il demande, il dit, bon, j'ai entendu ça, qu'est-ce que c'est? Et on lui confirme que ces transmissions sont bien destinées à l'espionnage. Puis, il y a un autre lien qui est important qu'on peut faire, qui accrédite cette utilisation des stations de nombre pour l'espionnage. Elle est confirmée en creux par les propos de John Winston, qui travaille à l'organisme de régulation radio des États-Unis. Il est invité sur une radio en 2000 et il a des propos qui sont des propos à la fois clairs et en même temps qui conservent un petit peu une aura de mystère.
Nous n'avons pas l'intention de discuter de ces stations, si seulement elles existent. Cela ne veut pas dire que j'admets le fait que des stations de nombre émettent de ce pays, même si vous affirmez le contraire. Nous en connaissons un grand nombre, mais à l'extérieur du pays.
Et alors, une fois qu'on a établi ce lien, Guillaume, une question s'impose pour finir de percer le mystère. Comment on les déchiffre, ces fameux messages? Et là, il faut d'abord qu'on explique que dans les années 90, la manière d'étudier ces stations, elle s'est perfectionnée avec une nomenclature pour les classer.
À la fin des années 90, au mi-temps et à la fin des années 90, on va dire que la communauté des écouteurs se structure. Il y a notamment deux passionnés, Chris Midgley et Mike Goffman, qui créent une association qui s'appelle l'association Enigma 2000. Et eux établissent ce qu'on a appelé ensuite la control list, qui est une nomenclature de ces transmissions. Elle fait toujours référence aujourd'hui, qui classe les stations selon la langue dans laquelle elles émettent. Par exemple, les stations qui émettent en anglais, elles sont précédées du E pour English, E01 pour l'anglais, S01 pour les langues slaves, G01 pour l'allemand, et évidemment, il y a autant de radios que de chiffres. Il y a donc la E01, la E03, 04, etc. Il en va de même pour les autres langues. À ce propos, il y a une anecdote qui est assez intéressante, me semble-t-il, c'est que la station baptisée E10, donc English 10, qui sera par la suite attribuée au Mossad, elle a diffusé un jour une transmission mais non codée. Et cette transmission non codée, elle disait « Good night ». Elle a pu être évidemment entendue par tout le monde et les listeners du monde entier pensent que c'était à eux qu'était destiné ce Good Night, qui s'est resté mythique, ça les a fait beaucoup rire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que plus globalement, les radioamateurs progressent et confirment une hypothèse, c'est qu'un même service ou une même ambassade, elle est souvent à l'origine de radios qui émettent dans des langues et sur des fréquences différentes.
Mais Guillaume, hormis ce « bonne nuit » supposément adressé par le Mossad, les services secrets israéliens, aux radioamateurs, il reste la question du sens de ces messages. Est-ce que les écouteurs les plus chevronnés sont parfois parvenus à en déchiffrer quelques-uns ?
Non, ils ne sont pas parvenus. C'est impossible pour la bonne et simple raison que ce chiffrement, qui est le bon mot d'ailleurs, c'est vraiment du chiffrement, il est basé sur ce qu'on appelle le one-time pad, en français le masque jetable, c'est-à-dire que pour chaque message correspond une clé. Et donc, il est impossible de décrypter les messages puisqu'il n'y a pas la récurrence qui permettrait de déchiffrer ces messages.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a jamais un message qui n'a été déchiffré, il n'y a jamais une clé qui traînait, qui a permis à des gens de savoir ce qui se racontait ?
Oui, c'est arrivé notamment en 1998. Il y a des agents cubains qui ont été arrêtés par le FBI. Et en fait, ils se sont mis à découvert parce que par négligence, ils ont utilisé le même one-time pad, c'est-à-dire la même clé de chiffrage pour plusieurs messages. Et là, on a réussi à les confondre. Mais s'il n'y a pas cette négligence, c'est absolument impossible.
Guillaume, depuis le début de cet épisode, on parle donc de messages chiffrés et d'enquêtes menées dans un contexte de guerre froide. Or, elle est terminée depuis plusieurs décennies. Et on vit aujourd'hui dans une époque où les moyens de communication, ils sont nombreux, ils sont sécurisés. Du chiffrement de bout en bout sur les messageries comme Signal, ça existe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les stations de nombre, elles ont encore une utilité dans ce contexte ?
Je ne sais pas si elles ont encore une utilité, mais ce que je peux dire, c'est qu'on en capte encore en 2024. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi ce mode de transmission archaïque a survécu à la guerre froide. Alors la première chose qu'on puisse dire, c'est que ça a un côté qui est universel et qui coûte pas cher. Et de toute façon, on trouvera toujours plus facilement un poste radio n'importe où dans le monde qu'un Apple Store, par exemple. Si vous êtes, dans le désert ou dans une forêt, c'est quand même plus facile, quoi. Ensuite, il y a le fait que c'est un équipement qui est fiable, qui est simple. La propagation des ondes courtes, elle peut faire le tour du globe quand les conditions sont favorables. Et cette simplicité, c'est un argument qui va en faveur de la perpétuation de ces stations de nombre. Et il y a une fiabilité qui est totale, ou en tout cas qui nous rapproche de la perfection, entre guillemets, pour un agent de renseignement, un officier de renseignement, dans la mesure où il peut faire disparaître très très rapidement les clés d'un masque jetable, les fameux one-time pad, d'accord ? Certains, à l'époque, étaient faits en papier cigarette pour pouvoir les brûler facilement ou étaient comestibles. Donc, tout le monde peut entendre ces transmissions, mais en fait, personne ne peut les déchiffrer. C'est quand même assez redoutable.
Et alors, est-ce qu'on a une idée de quels pays les utilisent encore aujourd'hui, ces stations de nombre ? Est-ce qu'on a des exemples récents dont on suppose qu'ils ont été émis par des services secrets contemporains ?
Il y a un autre exemple qui a stimulé un peu tout le monde dans le milieu des écouteurs, c'est le retour d'une station de nombre qui était attribuée à la Royal Air Force et qu'on a réentendue au début de la guerre en Ukraine, alors qu'elle était inactive depuis au moins une quinzaine d'années. Et dans ce milieu des écouteurs, on suppute que les Russes, ils voulaient peut-être signifier aux Occidentaux la reprise de la logique des deux blocs, de la guerre froide, parce que ça a beau être une radio à l'origine qui est anglaise, c'est bien les Russes qui l'ont utilisée pour communiquer. Souvent d'ailleurs, ces transmissions ont un lien avec la Russie. Alors on a parlé tout à l'heure du buzzer, de l'UVB 76, mais il y a aussi une histoire qui est, comment dire ça, ben oui, assez mystérieuse en mer Baltique.
Laquelle ?
C'est une enquête qui a été conduite par un consortium de journalistes scandinaves qui a donné lieu à un documentaire qui a été diffusé par Arte en juin 2023 et qui atteste de la présence en mer Baltique de navires commerciaux russes qui étaient équipés d'antiques postes radio analogiques, ce qui campe tout de même une bizarrerie. Et ces bateaux ont été repérés la veille de l'explosion du gazoduc russe Nord Stream 2. Et comment on peut interpréter la présence de ces postes en onde courte, que normalement il n'y a plus sur les bateaux, on est passé à des moyens qui sont beaucoup plus modernes. Alors, on peut le raccrocher avec une tradition, on va dire, qui est celle des années 60, des chahutiers russes qu'on appelait Spy Trawler, qui étaient en fait des bateaux espions qui transmettaient des stations de nombre. La plupart du temps, ils battaient pavillon cubain, ces chahutiers. Et cette idée de ces dispositifs qui s'appuient sur les bateaux, finalement, ils ont peut-être jamais été abandonnés par les Russes, puisqu'on sait aussi que les Russes sont attachés à des moyens de communication, d'espionnage, ou tout simplement des moyens technologiques qui fonctionnent. C'est-à-dire, peu importe que ce soit archaïque, si ça fonctionne, on continue.
Ok, donc ces stations pourraient encore servir à transmettre des messages codés aujourd'hui. Et alors, dans le même temps, je le disais au début de ce podcast, elles ont aussi complètement investi la pop culture, et pas seulement en Russie. Beaucoup de stations de nombre sont devenues des bases de musique, par exemple. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, ça a colonisé effectivement la pop culture. Il y a des gens qui écoutent 24 heures sur 24 ces stations de nombre qui sont regroupées sur des forums ou des chaînes sur Internet. Et il y a les musiciens qui s'en sont emparés aussi et qui incluent des échantillons dans les compositions de leurs morceaux. Alors il y a les Écossais de Boards of Canada, il y a les Londoniennes de Stereolab ou il y a aussi les Marseillais de Nasser, qui ont donc inclus des échantillons de stations de nombre dans leur compo.
Dernière question, Guillaume, puisque je crois que tous nos auditeurs ont reconnu à ton accent où tu habites, dans une ville qui m'est chère, puisque c'est également la mienne. Dernière question, est-ce qu'à Marseille, toi, tu as trouvé un vieux poste et tu as réussi à capter, sous le soleil de la bonne mer, des stations de nombre ?
J'ai effectivement un poste analogique que j'avais acheté il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant, essentiellement pour écouter les stations de nombre. Il m'est arrivé, mais assez rarement, de capter ces séries de nombres. Il m'arrive par contre d'arriver à les capter en morse, parce qu'elles sont aussi transmises en morse. Et par contre, il est complètement facile, y compris à Marseille, de capter le buzzer pratiquement tout le temps.
Merci Guillaume.
Merci Jean-Guillaume.
Et si je vous disais que vous pouviez lire l'intégralité de cette passionnante enquête de Guillaume Origoni dès maintenant sur lemonde.fr ? Comment ? En vous rendant sur le site abopodcast.lemonde.fr pour y retrouver notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de l'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. Pour soutenir le travail de notre rédaction, mais aussi de l'équipe de notre podcast, n'hésitez pas à vous y rendre. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.